France Inter.
Aujourd'hui, quand la mort façonne la vie, racontée par
Abdel Awacharia, chercheur au CNRS.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Nous sommes au début des années 70. Depuis des décennies, des chercheurs en biologie observent des cellules disparaître sans inflammation et sans désordre. Une mort contrôlée, inscrite dans le fonctionnement normal du vivant. Mais pour faire exister cette découverte, encore faut-il trouver un mot capable de contenir cette étrangeté sans la trahir. Pour cela, ils confient leur quête à un spécialiste du grec ancien avec une mission précise, trouver un terme qui dise à la fois la rapidité du processus et son caractère programmé et ordonné. Le spécialiste fouille les textes antiques et finit par exhumer un mot ancien, apoptosis. Dans la Grèce antique, ce terme désigne un spectacle simple et universel, la chute des feuilles à l'automne. Une disparition saisonnière et silencieuse, une mort donc qui prépare le renouveau. Le mot est donc choisi et avec lui une image s'impose. L'apoptose ne sera pas pensée comme un effondrement, mais comme une sortie maîtrisée du vivant. 20 ans plus tard, la science découvre que la métaphore était plus juste encore que prévu, car la chute des feuilles repose elle aussi sur un mécanisme de mort cellulaire programmé, localisé exactement au point de séparation entre la feuille et la branche. Ainsi, presque par accident, un terme venu de l'Antiquité devient la clé d'un basculement majeur en biologie cellulaire. Avec l'apoptose, la mort cesse d'être seulement l'ennemi de la vie, elle devient un outil et un principe d'organisation qui façonne toutes les formes du vivant. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Au début du développement embryonnaire, nos doigts sont joints par des palmes. Et puis à un moment, les cellules qui forment ces palmes s'autodétruisent. Et nos doigts sont séparés. Chez les animaux aquatiques, cette autodestruction est atténuée et ils ont des pattes palmées. C'est cette sculpture du vivant, c'est-à-dire au fond, c'est ce qui émerge en termes de forme et de complexité par ce qui est retiré. Un peu comme un sculpteur construit sa sculpture par ce qu'il retire de la pierre et pas forcément par ce qu'il ajoute.
La voix de Jean-Claude Amezen, c'était en juillet 2023 dans les masterclass de France Culture. Abdel Awacharia, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous qui êtes l'auteur d'un livre, La mort, architecte du vivant aux éditions Belin. Jean-Claude Amezen a beaucoup participé à populariser justement l'apoptose.
Ah oui, quel héritage il nous laisse et quelle responsabilité avec son ouvrage de 1999 qui commence à dater mais qui est un petit peu immortel pour son contenu, la mort créatrice, la sculpture du vivant. Ouais. Donc le premier à avoir mené une enquête extrêmement poussée sur les racines biologiques, philosophiques de la mort cellulaire programmée. Et puis, en plus d'être un magnifique médecin, un extraordinaire chercheur.
Et un conteur formidable aussi.
C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est une voix de radio.
Et absolument.
On l'oublie pas pour cela.
Alors il y a un autre personnage important, c'est Edgar Morin qui préface votre ouvrage. Pourquoi est-ce que vous lui avez confié d'ailleurs cette préface?
Edgar Morin,
à ce jeune homme de 104 ans.
Effectivement. Bah, Edgar Morin, c'est une rencontre, c'est ma première percussion, j'allais dire, avec ce thème de la mort, vu sous un angle un petit peu vite à faire, comme je l'ai nommé. Ma seconde percussion, c'est justement Jean-Claude Amezen. Alors pour Morin, c'est le premier auteur qui écrit un ouvrage transdisciplinaire sur la mort en général, hein, en 1951. On lui doit l'homme et la mort. Et dans cet ouvrage, dans l'une des postfaces, il prédit une sorte de prophétie dans laquelle il énonce en fait la possibilité que les cellules du corps puissent s'autodétruire. Et en discutant avec Jean-Claude Amezen, il obtient validation de sa prophétie. Et c'est dans ce canevas-là, et cet héritage, que s'inscrit humblement le travail que j'ai essayé de conduire.
Voilà deux figures importantes, en tout cas, dans le cadre aussi de vos travaux. Alors ce livre, c'est l'occasion de revenir sur plusieurs épisodes de l'histoire de la science, donc ça c'est tout à fait intéressant, et pour comprendre également où en sont les recherches aujourd'hui autour de ce phénomène, donc de mort cellulaire, qui fascine, est-ce qu'on peut dire vraiment l'ensemble du vivant ?
Ah oui, je pense qu'on peut le dire, en fait. Ouais. Dans toutes les grandes branches du buisson de la vie, on trouve des exemples de morts cellulaires programmées, depuis les procaryotes, donc les bactéries, les archéobactéries, donc il y a 4 milliards d'années. Et quand on s'intéresse aux champignons, donc des multicellulaires, des végétaux, chez les protistes, qu'ils soient parasites ou non, donc des unicellulaires, et bien sûr, chez les animaux que nous sommes, on trouve des instances de morts cellulaires programmées dans chacune de ces branches.
Ouais. Sans la mort, la vie, tout simplement, n'existerait pas, en fait. C'est aussi ça qu'il faut comprendre.
On peut le dire comme ça, sans la mort, pas de vie. Et on peut aussi dire que la mort est un geste interne de la vie, au même titre que d'autres attributs de la vie.
Ouais, et justement, hein, ce que vous expliquez, c'est que pendant très longtemps, dans l'histoire des idées, la mort, en fait, a été pensée comme extérieure à la vie.
Exactement.
Donc c'est intéressant, justement, de revenir aussi sur cette histoire, parce qu'il y avait une sorte de chose assez binaire, hein, autour de la vie et de la mort.
Je pense qu'on peut dire ça comme ça, et je pense qu'encore aujourd'hui, on a une difficulté conceptuelle, en fait, à essayer de comprendre la mort comme étant un geste de la vie. Alors, cette filiation, elle remonte un petit peu, en fait, à Aristote, qui sépare l'âme du corps. On a ensuite les monothéismes, notamment le christianisme, qui reprend un petit peu ça, en fait, à son compte. Alors, je retrace cette histoire un petit peu à grandes eaux, hein. Vous comprendrez, on n'a pas beaucoup de temps.
C'est oui, mais c'est intéressant, parce que ça remonte jusqu'à l'Antiquité,
ah, oui, ça remonte à l'Antiquité. On a Descartes, René Descartes, qui nous explique que rien dans la vie ne va contre l'instinct de sa propre nature, et rien ne va du côté de l'autodestruction. Donc, il pense la mort comme étant complètement extérieure à la vie. Descartes, on a Xavier Bichat, donc grand physiologiste français aussi, qui nous explique que la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Donc là encore, on entérine le fait que la mort soit extérieure à la vie, et puis après, on continue avec une difficulté à conceptualiser la mort dans la vie, pour des raisons qu'on peut même lier au terme de biologie. Il est tout à fait paradoxal que la science de la vie, les sciences du vivant, puissent intégrer en leur sein la mort, la thanatologie.
C'est ça.
Et c'est pourtant ce travail qu'ont fait les chercheurs à l'origine de la réhabilitation de ce concept de mort cellulaire.
C'est ça. Il faudrait inventer un autre mot pour la biologie, quasiment, pour englober précisément aussi ce facteur.
Oui et non. Si on considère, hein, ou pas. Si on considère, Mathieu, que la mort fait partie de la vie, tout n'est que biologie.
Alors justement, cette histoire-là que vous venez de nous résumer, hein, très, très rapidement, elle a influencé la science moderne pendant assez longtemps, en fait, avant des découvertes majeures, justement, autour de l'apoptose.
Alors, je pense qu'en fait, la science de la mort cellulaire, en fait, n'a pu se faire que sur la base de deux prérequis, en fait. Le premier, c'est l'apparition du concept de cellule. Donc, pour se rendre compte que des cellules peuvent mourir, il faut d'abord que la notion de cellule elle-même soit apparue.
Et ça paraît quand ?
Et ça, c'est Robert Hooke, c'est assez tardif, en fait, dans l'histoire des idées, hein. C'est 1585, si mes souvenirs sont bons. Et on a ensuite donc un deuxième prérequis qui est l'apparition, donc juste avant, enfin là j'inverse, mais il faut aussi des microscopes, oui. Il faut aussi voir des cellules tout simplement, donc avant de se rendre compte qu'il y a des cellules,
il faut de l'optique,
de les voir, donc là c'est des opticiens hollandais, les Janssen père et fils, en fait, qui mettent au point ces microscopes qui permettent de voir des cellules. Et ensuite on a Hooke qui observe les cellules, et on a ensuite Karl Vogt qui est le premier à observer des cellules qui meurent dans des organismes. Et il est suivi par Rudolf Virchow et tout un ensemble, en fait, un collier de perles de chercheurs qui, dans des modèles extrêmement différents, vont découvrir, parfois indépendamment, même le plus souvent, que des cellules meurent dans les organismes vivants.
Et il parle de mort cellulaire, le terme est employé déjà à ces époques-là, ou pas ?
Alors, c'est une excellente remarque. En fait, on a une sorte de confusion sémantique autour de ce processus de mort cellulaire programmée, puisque il est rangé sous des appellations assez différentes en fonction des chercheurs qui le découvrent. On parle de nécrobiose, pour certains chercheurs, de chromatolyse, d'histolyse, de mort par rétractation, etc. Et cette diversité sémantique fait qu'un même processus sous des appellations différentes a du mal à être reconnu. Et quand on creuse un petit peu pour voir ce qu'il y a derrière cette question, en fait, on trouve le morcellement disciplinaire. C'est-à-dire que chacun de ces chercheurs, en étant spécialiste d'un type de modèle d'étude,
a du mal à voir ce qui se passe ailleurs.
Ce qui se passe ailleurs. Et en fait, on a trois grandes branches qui ont chroniquement découvert et redécouvert la mort cellulaire programmée. On a l'embryologie, on a donc la biologie du développement, on a les entomologistes qui s'intéressaient à la métamorphose chez les insectes, et on a les médecins, les pathologistes. Et donc, dans chacune de ces disciplines, c'est réinventé, redécouvert, en fait, le canevas en lien avec la mort cellulaire programmée.
On pourrait remonter même encore plus loin dans l'histoire, Abdel Aboucheria, parce que votre récit nous emmène jusqu'à la préhistoire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que les peintures rupestres ont des choses à nous apprendre sur, justement, la mort cellulaire?
Je pense que les artistes de la préhistoire avaient peut-être senti, c'est une hypothèse, elle n'est pas du tout étayée scientifiquement, mais avec ces mains négatives qui étaient
posées
sur les parois, en fait, faites au pochoir, on peut dire, par une technique d'empreinte négative, avaient peut-être senti, en fait, que la forme pouvait être créée par la mort. Alors, c'est une hypothèse. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que...
On l'expliquera tout à l'heure, parce que l'histoire de la main, justement, biologiquement, c'est absolument passionnant, et on y reviendra.
Ce dont on peut être à peu près certain, c'est que la notion d'involution, le fait que des tissus ou des organes puissent disparaître au cours du développement, n'a pas été très facile à comprendre à cette époque-là, puisqu'il n'existait pas de microscope, justement. Donc on n'avait pas accès, en fait, à la mort cellulaire, on n'avait pas accès non plus très facilement à la dynamique des tissus.
Mais c'est ce qu'expliquait Jean-Claude Amezen avec les mains palmées. Hein.
Exactement.
Nous aurions des mains palmées s'il n'y avait pas de mort cellulaire. Exactement. C'est exactement ce qu'il disait dans l'exemple. Et donc, à la préhistoire, oui, il y avait ces représentations.
Mais sans la connaissance, apparemment, en fait, que ces mains, en fait, étaient sculptées par des processus d'involution. Donc peut-être que ça avait été pressenti, nul ne le sait.
Alors, dans l'Antiquité, il y a quand même une idée que certaines structures du corps peuvent régresser. Ça, c'est déjà évoqué, et il y a le canal artériel est particulièrement intéressant pour en parler.
Alors, c'est la régression du canal artériel, en fait, qui permet donc à l'embryon de pouvoir puiser dans le sang de la maman, justement, l'oxygène et les nutriments. Et ce canal artériel, évidemment, quand le fœtus naît, eh bien, il ne sert plus à rien. Donc, on a une régression de ce canal, et on trouve les premières descriptions, pour sûr, à l'époque de Galien. Donc, qui le décrit, qui essaye d'échafauder des hypothèses autour de sa disparition, et on ferait remonter les premières descriptions, encore plus loin, en fait, Aristote, mais on n'en a pas la certitude. Mais pour Galien, c'est étayé.
Donc, il y avait quand même cette sorte de compréhension sur, effectivement. La disparition de cellules. Pourquoi il faut attendre si longtemps, en fait, dans l'histoire des sciences, pour qu'enfin on comprenne bien, justement, ce qu'est la mort cellulaire? C'est une histoire de technologie, tout simplement, d'outils?
Technologie avec le microscope, notion de cellule, et puis ensuite, et je pense que c'est l'un des obstacles majeurs, c'est l'idée que puisse percoler dans les sciences du vivant le fait que la mort puisse être un événement positif.
Oui.
On a une sorte de lecture binaire qui remonte à Platon, comme on l'a dit, qui est très très ancienne, qui passe par Descartes, Bichat, etc., qui enferme en fait la mort à l'extérieur de la vie. Et puis on peut aller même plus loin, c'est que souvent quand on étudie les paires d'opposés, de contraires, on a souvent un des deux éléments qui domine l'autre. Et là encore, on retrouve ça avec le couple mort-vie. On a la vie qui serait un événement positif et la mort qui serait intrinsèquement négative. Et donc ça ne facilite pas l'intégration de la mort comme étant un des gestes du vivant.
Donc ça veut dire que là, il faut cheminer philosophiquement, en fait, sur ces questions-là, pour arriver même scientifiquement à pouvoir découvrir autre chose de ce phénomène.
Exactement, Mathieu. En fait, on peut pointer le fait, je pense qu'on peut le dire, la métaphysique telle qu'elle elle s'est développée est thanatophobe. Elle supporte pas la mort. Mmh. Et donc, réintégrer la mort dans le champ de la métaphysique est un enjeu majeur.
Ouais. On parle même aujourd'hui encore, d'ailleurs.
Aujourd'hui encore, on parle de métabiologie pour essayer de penser, en fait, la réintégration de la mort comme étant une fonctionnalité du vivant. Mais ce travail de déconstruction, à la fois de ce biais cognitif qui nous amène à à penser en paire de contraires, d'opposés, etc. Donc c'est la dichotomisation. C'est un biais cognitif qui simplifie le réel et qui en même temps l'enferme, produit une vision simpliste en fait, pas du tout complexe au sens d'Edgar Morin, au sens morinien du terme. Donc il y a ce biais cognitif à déconstruire et en même temps, il y a tout l'acquis et les préconceptions sociétales sur le fait que la mort... C'est forcément la fin d'une trajectoire, c'est forcément la disparition, c'est un petit peu the end à la fin du film, donc le terme. Et donc comprendre que la mort, c'est... Enfin, qu'en tant qu'organisme multicellulaire, nous mourrons des milliards de fois pendant une vie.
C'est ça.
Quand même un chemin à parcourir.
Donc c'est un autre scénario que vous nous proposez.
Exactement.
Et que vous étudiez évidemment en tant que chercheur, Abel Awacheria. Ça s'appelle « La mort, architecte du vivant », ce livre que vous signez aux éditions Belin. Et on va voir avec vous dans un instant ce que fait concrètement aussi cette mort cellulaire sur le vivant et comment elle agit chaque jour pour le façonner. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Une cellule sait quand mourir. La vie n'est pas simplement la survie, mais un équilibre constant entre création et disparition. Chaque seconde, ton corps est maintenu en vie par des cellules qui savent exactement quand disparaître.
Extrait du compte Instagram L'Arbre du Savoir sur l'apoptose dont on parle avec vous, Abdel Awacheria, vous qui travaillez donc à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Vous êtes notre invité donc avec ce livre, La mort architecte du vivant. On va voir avec vous quels sont les rôles essentiels de cette mort cellulaire, parce que on le disait, elle est absolument indispensable aussi à la vie aujourd'hui. Comment dans le cadre de votre travail de chercheur au CNRS, vous bossez justement sur cette apoptose?
Alors, de différentes manières, mais j'ai eu deux grands moments dans ma carrière de chercheur donc autour de la mort cellulaire. Il y a eu une première vague, j'ai fait partie d'une génération de chercheurs qui cherchait à découvrir les gènes de la mort, donc essayer de comprendre quels étaient les scripts moléculaires qui pouvaient pousser une cellule à se suicider, ou au contraire à ne pas se suicider dans le cas du cancer par exemple.
Ouais.
Et puis à côté de ça, un peu plus récemment, je me suis intéressé à la manière dont les molécules qui se trouvent dans la chimiosphère qui nous entoure vont déclencher des processus un petit peu mortifères au niveau des cellules, et je pense en particulier aux pesticides. Et j'étudie en ce moment, par exemple, on a un projet au labo sur les effets cocktail de pesticides, la manière dont ces mélanges de pesticides, qui sont ceux qu'on retrouve donc in situ, vont déclencher ou non la mort de tel ou tel type cellulaire, et donc induire des nocivités, des toxicités.
Ce sont des travaux en cours.
Ce sont des travaux en cours.
Il y a déjà des conclusions ou pas à livrer, ou c'est un petit peu prématuré?
Il y a déjà quelques conclusions.
Parce que ça nous intéresse, vous êtes dans une émission d'écologie aussi aujourd'hui. Donc là, on peut relier justement la science dure à l'écologie.
Il y a un début de conclusion qui est que ces effets cocktails existent vraiment quand on étudie l'impact toxique d'une molécule. Et c'est ce qui est fait notamment par les firmes qui commercialisent les pesticides. Assez souvent, on n'a pas forcément une mort cellulaire, une toxicité cellulaire qui s'enclenche quand on commence à mélanger différents types de pesticides qui se retrouvent ensemble. On peut faire baisser les doses toxiques. Et donc, c'est un enjeu d'essayer de comprendre comment l'exposome, au sens large, peut induire en fait des réponses toxiques qui ne sont pas détectées quand on s'intéresse aux substances individuelles.
Ouais, dans un contexte où, évidemment, on est exposé en permanence à tout un tas de produits phytosanitaires. Hein.
Exactement, en permanence, pendant très longtemps, on a une chronicité.
Et dès le plus jeune âge.
Et
la première partie de vos recherches, là, vous avez trouvé la réponse ou pas alors?
Alors j'étais pas le seul, mais il y a eu un prix Nobel avec ça, qui a été obtenu grâce à des travaux sur le ver, Caenorhabditis elegans, avec trois chercheurs qui ont découvert en fait l'ensemble de la machinerie moléculaire qui pousse 131 cellules sur les 1090 du nématode à se suicider au cours du développement embryonnaire.
Ouais.
Et ça a été la première démonstration qu'on avait un outillage moléculaire qui permettait d'enclencher l'autodestruction. Donc moi j'ai découvert d'autres gènes.
Ouais.
Que ceux qui étaient présents chez le ver.
Et comment on explique cet emballement, alors justement, de cellules qui vont finalement détruire l'organisme plutôt que de le protéger, alors?
Alors dans le cas du ver, c'est pas un emballement, c'est vraiment une mort cellulaire développementale.
Pardon, je pensais au cancer en fait, parce que vous parliez du cancer tout à l'heure, dans le cas où justement il y a une prolifération de cellules.
Alors, pour le cancer, alors lorsqu'on a dit que la fonction de la mort cellulaire c'était une fonction vitafère, une fonction qui participe en fait au développement des organismes, à leur protection, ça élimine les cellules anormales, défectueuses, dysfonctionnelle, etc. Mm-hmm. On comprend que tout dérèglement, en fait, dans ce processus qui a une importance majeure, peut avoir des conséquences funestes sur la santé des organismes, en particulier l'humain. Alors, ce qui se passe avec le cancer, c'est trop peu de morts. Et puis à l'inverse, pour les maladies dégénératives ou les ischémies, les infarctus, les AVC, c'est trop de morts. Et donc, on a cette dichotomie, pour le coup.
Alors, pardon, je ne comprends pas. Quand vous dites trop peu de morts, qu'est-ce que vous entendez ?
Trop peu de morts cellulaires. En fait, ouais. les cellules cancéreuses échappent. Donc créer un échappement vis-à-vis de la mort cellulaire.
C'est ça.
Elles ne meurent plus. Et c'est ce qui fait qu'elles survivent en dépit d'une instabilité génétique, de la présence de mutations qui devraient les tuer et qui ne les tuent plus.
C'est ça. Vous parlez des cellules et pas des individus. Hein,
oui, je parlais des cellules.
Il pourrait y avoir une ambiguïté sur les propos. Ouais.
Donc ces cellules cancéreuses, elles survivent malgré donc, une instabilité génétique, l'accumulation de mutations qui devraient les tuer. Elles survivent également en fait, dans des territoires dans lesquels leur présence est illicite. Mmh. Je parle des métastases, et elles survivent bien évidemment, et c'est un problème de santé publique lorsqu'on les traite avec des agents chimiothérapeutiques par exemple, ou de la radiothérapie, puisqu'elles ont désactivé leur voie de mort cellulaire, et en particulier l'apoptose, elles sont extrêmement difficiles à tuer.
Ouais. D'où aussi des pistes sur les traitements vraiment adaptés.
Donc l'une des pistes, c'est d'essayer de réanimer, de réactiver ces voies de mort cellulaire qui sont devenues défectueuses, dans le but en fait de réduire les masses tumorales.
C'est ça, pour qu'elles se défendent, enfin que l'organisme se défende lui-même, hein, plutôt que d'avoir recours à des agents extérieurs, on pourrait dire des choses comme ça. Dans les exemples que vous citez justement, Abdel Awacheria, dans votre livre, les doigts, les orteils, la main en général, tout ça est vraiment, ce sont des exemples qui sont importants, qui sont faciles à comprendre, et qui illustre parfaitement justement ce phénomène d'apoptose. En quoi la disparition des cellules interdigitales justement illustre de façon particulièrement intéressante cette mort cellulaire ?
Alors, c'est un exemple emblématique, c'est massif, ce qui se produit au cours de la vie fœtale, en fait, chez l'humain en particulier, mais chez d'autres animaux aussi. On a, pendant la vie fœtale, on a tous eu des mains qui ressemblaient à des moufles ou à des palmes, et il s'est passé quelque chose pour qu'on finisse tous avec des doigts et des orteils individualisés.
À quel moment ça se passe d'ailleurs dans le développement
Il me semble, de mémoire, vers le cinquième mois, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est à vérifier. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est une régression de ce tissu interdigital, un petit peu à la manière dont la mer se retire du rivage, en fait, finalement. Et puis, on se retrouve avec cette individualisation des doigts. Et c'est extrêmement important pour l'espèce humaine, puisque on connaît l'enjeu crucial de ce trio entre la main, le cerveau et les outils, enfin la technique. La main qui est générée par cette mort interdigitale est une main préhensile qui nous permet de manipuler des objets techniques. Et c'est ce type de production qui nous permet, en fait, qui a permis sans doute l'évolution humaine, tout simplement.
C'est ça la sculpture du vivant, hein, justement.
C'est ça.
Parlez à Mézène et vous reprenez dans vos.
C'est l'image du sculpteur qu'a très bien démocratisé Jean-Claude Amezen, en fait. Il explique comment on est passé de l'image d'une mort qui serait une faucheuse à celle d'un sculpteur qui vient en fait essayer de travailler le vivant et de créer des formes, en fait. Donc c'est la forme, c'est la mort morphogénétique. C'est la sculpture de cavités qu'on pourrait qualifier d'externes, dans le cas de l'espace entre les doigts, mais également de cavités qui se trouvent dans l'organisme. Et toutes les cavités de l'organisme, alors la cavité digestive, les tubules rénaux, les poumons, etc., enfin tout ce qui se trouve dans le foie, le canal vaginal, etc. Donc toute la formation de ces creux se fait par un processus d'architecture par la négative. Alors je l'ai qualifié dans mon ouvrage d'amputecture, donc une sorte d'architecture en creux qui permet en fait de générer de la forme par l'évidement. Donc c'est de la soustraction créatrice, pour employer une terminologie que j'emprunte à Deleuze.
Alors ça, justement, on en reparlera de Deleuze tout à l'heure. Quand le processus se passe bien, effectivement, au lieu d'avoir une main palmée, on a une main avec des doigts séparés, qui nous permettent d'avoir donc une bonne agilité pour tenir, par exemple, des outils. Il arrive parfois que ça ne se passe pas comme ça, que justement la mort cellulaire ne fasse pas son travail. Donc on peut avoir des doigts surnuméraires ou des mains palmées à la naissance.
C'est de la syndactylie, c'est comme ça qu'on appelle la maladie, en fait, la pathologie qui est générée par les défauts, en fait, de régression tissulaire, donc au niveau interdigital. syndactylie. Et puis, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'à chaque fois que la mort cellulaire est impliquée dans la sculpture d'une forme dans le corps, lorsque ce processus est empêché, lorsqu'il ne se produit pas de manière normale, on va se retrouver avec des défauts majeurs. Mm-hmm. Je pense à, par exemple, au spina bifida, qui est une autre pathologie qui est créée par une absence, en fait, de mort cellulaire.
Donc, ça traduit comment, concrètement ?
Spina bifida, c'est une liaison, en fait, au niveau du canal neural, en fait, du tube neural, qui se produit de manière anormale au cours du développement. Mm-hmm. Mais on a pléthore, en fait, de pathologies développementales qui peuvent être liées, ouais, à des défauts d'apoptose.
Dans le cas du cerveau, comment cette mort cellulaire intervient aussi ? Parce que là, on parle des mains ou des doigts de pied. Dans le cas du cerveau,
Pour le cerveau, on a un processus qu'on peut qualifier de sélection négative. Alors, les neurones, en fait, sont produits en excès. On pourra voir que c'est la même chose avec les ovocytes, d'ailleurs, chez la femme. On a une sorte de processus de surbooking qui fait que le corps produit un excès de cellules nerveuses, et puis ensuite on a des vagues d'apoptose successives qui permettent d'instaurer une sorte de filtre qualitatif. D'une part, donc en éliminant...
De choisir les meilleurs ?
Alors de choisir les neurones qui sont capables d'émettre un prolongement, qui touchent sa cible, qui permet la transduction d'un signal nerveux. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, le neurone se suicide. Donc en fait, la survie du neurone est un sursis permanent. Ça a été extrêmement bien décrit par Jean-Claude Amezen, justement. Au même titre que la paix serait la répression constante de la guerre, quelque part. Donc on a ce système, en fait, qui se produit pendant la vie fœtale. Et puis ensuite, on a aussi une mort neuronale qui se produit, par exemple, chez l'enfant, qui permet une certaine plasticité en réagençant, reconfigurant, pardon, les connexions, en fait, synaptiques, de manière à ce que les circuits de l'apprentissage soient optimaux. Donc on a ça, on a cette sorte de sélection négative pendant le développement. On a la même chose avec les ovocytes, d'ailleurs, chez la femme. Ça peut être un exemple aussi qu'on peut évoquer, Mathieu. On a une surproduction, donc là encore, le même processus de surbooking avec 6 à 7 millions d'ovocytes qui sont produits lors de la vie fœtale. On se retrouve plus qu'avec un petit million d'ovocytes au moment de la naissance. Et puis 300 000 à l'adolescence, chez les jeunes filles. Donc vague d'apoptose, vague de mort cellulaire. Et puis à chaque cycle, on a un follicule ovarien, en fait, qui émet un ovocyte. Et on a 400 à 500 ovocytes qui sont émis. Et la ménopause, c'est le stade qui est atteint par une femme lorsqu'elle n'a plus d'ovocytes, donc zéro. Donc on voit qu'on a une extinction progressive, en fait, de la quantité d'ovocytes. Et ça répond à diverses logiques, mais l'une des logiques, c'est qu'on produit en excès, et puis ensuite, la logique du corps, c'est de se dire, il vaut mieux nourrir quelques stars, donc quelques ovocytes qui potentiellement pourront être fécondés, plutôt que de nourrir une armée de figurants, ouais, et donc de dilapider des ressources énergétiques qui sont précieuses, et donc on a ces phénomènes d'atrésie folliculaire.
Et la peau aussi, hein, illustre très bien cet exemple, hein. La peau, c'est et ça on le sait bien, il y a un renouvellement régulier, et heureusement d'ailleurs, et ça c'est aussi lié à la mort cellulaire.
La peau, c'est un exemple magnifique, parce que ça permet aussi de se brancher sur ce concept de permanente impermanence. La peau, c'est un processus de mort particulier qui s'exerce, c'est la cornification. En fait, ça correspond à un voyage des kératinocytes, donc des cellules de la peau, des profondeurs, en fait, de l'épiderme jusqu'aux couches superficielles. Et pendant ce voyage, ces cellules de peau, elles meurent. Elle fabrique, en fait, une couche cornée, qui est une couche de cellules mortes, qui est organisée un petit peu à la manière d'un mur avec des briques et du ciment. Et cette couche va desquamer, et c'est ce qui va contribuer, je le dis au passage, à la poussière domestique dans les appartements, 6 à 10 kilos par an de cellules.
Si on avait des microscopes vraiment sur nos parquets, on verrait tout ça.
On pourrait voir tout ça. Alors pour la peau, ce que j'aime bien, c'est citer deux notions qui viennent avec la peau. C'est qu'on a typiquement, alors pour les mains, donc on l'a mentionné avec les doigts, en fait, la production d'une sorte de cavité externe, si on peut utiliser cet oxymore. Pour la peau, c'est un organe barrière. C'est ce qui nous sépare, en fait, de l'environnement. Et c'est ce qui permet, en fait, de donner, au même titre que les cellules nerveuses qu'on a évoquées tout à l'heure, en fait, la profondeur à l'identité. Donc ça, c'est l'une des notions qu'on peut convoquer. Et la deuxième, c'est celle du bateau de Thésée. Le cycle, en fait, de production des cellules de la peau, c'est 28 jours. Donc, toutes les trois semaines, quand on touche la peau de l'être aimé, la peau...
C'est ça.
D'un proche, la peau de ses enfants, on ne touche pas la même peau et pas le même individu. Donc c'est permanente, impermanence, c'est
bâton de taiser. Et vous insistez beaucoup sur la précision d'ailleurs hein, du phénomène aussi, hein, en toute chose.
Évidemment, donc là encore, on peut avoir des maladies qui surviennent lorsqu'on a des défauts de kératinisation, donc enfin, psoriasis, à l'inverse, des couches de peau qui peuvent s'accumuler et former d'autres pathologies.
Abdel Aboucharia, on va se retrouver dans un instant et puis on va voir évidemment ce que devient notre rapport à la mort, hein, lorsque évidemment on ne le pense plus juste comme un événement unique, mais comme celui que vous venez de nous décrire depuis le début de cette émission. Vous êtes notre invité cet après-midi sur France Inter.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Je dirais qu'en termes spinozistes, il faudrait presque dire, celui qui meurt prématurément, ben oui, c'est un cas où la mort s'impose de telle manière qu'elle concerne la majeure partie de l'individu considéré. Empêcher les morts prématurées, ça veut dire quoi ? Pas du tout empêcher la mort, mais faire que la mort, lorsqu'elle survient, ne concerne finalement que la plus petite partie de moi-même. Bon, je dirais, est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser ? Oui, mais pas de théorie, hein, rien que du sentiment.
Deleuze, retrouver 16 leçons de philosophie, c'était sur France Culture en août dernier. Abdel Aboucharia, si on a choisi d'entendre la voix de Deleuze, c'est parce qu'il fait partie des philosophes qui vous ont beaucoup inspiré sur cette thématique de la mort cellulaire, justement.
Oui, évidemment, bah Deleuze, c'est le philosophe du devenir. Alors, il ne faut pas oublier Guattari, quand même, quand on cite Deleuze, ouais. Ils ont beaucoup écrit ensemble, mais bon, c'est des philosophies relationnelles, etc., qui pense un petit peu le couple vie-mort en dehors de l'opposition dualiste, l'enfermement dans le canevas binaire, en fait, que, ouais. Sur lequel j'ai travaillé. Deleuze, il a aussi proposé le concept de soustraction créatrice. Alors, il le mentionne pas du tout en lien avec la biologie, dans Mille plateaux. Il le mentionne en lien avec le langage. Il explique comment le fait de doubler les voyelles, les consonnes, quand on est bègue, en fait, peut produire par soustraction sémantique, quelque part, une autre forme d'intelligibilité du langage. Mais il n'en demeure pas loin que cette soustraction créatrice deleuzienne trouve des échos avec la destruction créatrice de Schumpeter, un économiste, et avec le gain par la perte d'un anthropologue, philosophe aussi, Georges Bataille, et que derrière toutes ces appellations, en fait, on retrouve ce concept d'amputecture, finalement, de retrait opérant, de retrait créatif, qu'on retrouve avec l'apoptose et la sculpture du vivant.
Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, la Deleuze, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, précisément sur la mort prématurée ? Comment il faut comprendre ces propos ?
Alors, là-dessus, il est un petit peu ambigu, parce qu'autant il nous explique que la mort doit concerner la plus petite partie de l'être.
Ouais.
Alors, je ne sais pas comment il peut envisager ce processus, étant donné que, par exemple, la mort cellulaire programmée se produit tout au long de la vie. Et donc, manifestement, Deleuze ne parle pas de ça à ce moment-là. Il s'intéresse uniquement, en fait, au processus de mort prématurée, donc des enfants, peut-être, qui meurent à un âge où ils ne doivent pas mourir. Mais il le ramène à l'individu, alors que le renversement un petit peu ontologique dont il est question aujourd'hui, c'est celui de la cellule, se produit au niveau cellulaire. On voit bien qu'on a deux strates du vivant qui parfois, ouais, ne sont pas homomorphes.
Ouais. Mais nous avons en permanence des morts cellulaires en nous, en fait. C'est ce processus qui nous accompagne effectivement tout au long de notre vie. Hein. Au moment où on se parle, il y a ce mécanisme qui agit.
Nous mourons des milliards de fois en tant qu'individu multicellulaire. Et ça se passe à chaque seconde. Je crois que c'est 100 000 cellules qui se suicident en moyenne par seconde dans l'organisme. C'est 10 milliards par jour. Donc c'est énorme et c'est massif. Et ça vient réintégrer ce processus d'effacement, d'auto-effacement dans l'ensemble des caractéristiques, en fait, du vivant.
Abdel Aboucharia, justement, si on sort un petit peu de la biologie pure et qu'on va sur le terrain de la philosophie, c'est une autre façon précisément de parler de la mort. Alors, il faut aussi sortir de la biologie pure pour pouvoir en discuter.
Je pense que dès lors qu'on s'interroge sur des notions aussi extrêmes que celles de vie et de mort, on est obligé d'extravaguer en dehors de sa discipline. Et par essence, en fait, on a besoin d'interdisciplinarité, on a besoin de changer de siège pour essayer de tourner, en termes de perspective, autour d'un même objet. Mmh. Alors, si on considère la mort comme étant notre objet d'étude, on passe par trois visions différentes, en fait. Première vision, qui est le canevas dualiste, qu'on a bien décrit, donc Platon, Descartes, Bichat, etc., une mort extérieure à la vie.
Ouais.
du canevas dualiste, on change de lunettes et on passe à une sorte de vision dialogique, qui est un petit peu l'idée que le pouvoir d'autodestruction du vivant ne serait que l'autre face du pouvoir d'auto-organisation du vivant. Donc on aurait donc une pièce avec deux faces et un dialogue, donc c'est l'yin et l'yang. Il y a différentes manières de le dire, donc Morin a proposé...
Selon les cultures, oui.
Donc Morin, Edgar Morin a proposé ce principe dialogique. Et on a ensuite peut-être encore un changement de lunettes, donc c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon ouvrage, c'est celui d'essayer de comprendre en fait qu'il y a différentes manières de vivre et de mourir. Donc essayer de mettre des lunettes qui sont celles d'une vision plurale.
Et ça dépend justement des espèces aussi.
Ça dépend des espèces.
Il y a une diversité dans ces façons
alors,
de mourir.
Si on se place au niveau des individus, alors il y a des unicellulaires et des pluricellulaires. Chez les unicellulaires, il y a différentes manières de mourir. Il y a des bactéries qui enclenchent du suicide altruiste. Il y a des levures qui le font également. Il y a du cannibalisme nutritif, etc., qui sont bien décrits chez ces unicellulaires qui forment aussi des colonies, qui sont aussi dans un continuum de coopération cellulaire. Chez les multicellulaires, eh bien, on a tout ce qu'on a décrit, l'apoptose, etc., mais on a également l'érosion de l'être sculpté, c'est-à-dire qu'une fois que l'organisme est né, il peut mourir. Et donc il y a diverses manières de vivre et de mourir. Alors quand on est une hydre, on est une espèce à vieillissement négligeable, la mortalité serait constante. Et on a des capacités de régénération qui sont énormes.
Alors c'est ça, il y a des espèces quand même qui présentent des particularités dont il faut parler.
L'hydre par exemple, alors c'est un exemple, on en a d'autres. On a les planaires, on a le blob qui est capable de se régénérer à partir d'un seul de ses noyaux. Et puis on a en fait à l'autre bout du spectre, mais c'est très mal dit en fait, sur une autre branche de cet éventail du vivant, par exemple des arbres qui vont être majoritairement morts. Donc je pense à un olivier par exemple millénaire, c'est un tronc qui est fossilisé quasiment. Et puis quelques rameaux vivants. Et ces oliviers sont capables de vivre plusieurs centaines, dépasser 1000 ans. On a des manières d'échapper en fait à ces formes de sénescence. Je pense en particulier à ces arbres qui se reproduisent par clonalité. Donc ils vont émettre des prolongements rhizomatiques. Donc on pense à Deleuze. Deleuze, c'est la philosophie du rhizome. On a un peu la même chose avec une colonie clonale qui est Pando.
C'est ça.
Dans une forêt dans le sud-ouest américain, dans l'Utah. Je crois que c'est Utah pour Pando, à vérifier. Avec un arbre qui aurait 80 000 ans pour ce qui est de son entité enfouie, donc son réseau souterrain, et puis des tiges, en fait, donc c'est un peuplier, des tiges qui auraient 130 ans.
Donc qu'est-ce que ça raconte finalement du processus là, de mort cellulaire, hein? C'est-à-dire qu'il n'opère pas du tout de la même manière, là, en fait. Il est quasiment en sourdine absolue, non?
Alors non, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ce qui se passe à un niveau d'organisation du vivant ne se passe pas forcément à un autre. Et quand on change d'échelle, les règles changent. Donc Galilée l'avait déjà énoncé. Tous les systèmes et tous les niveaux, enfin toute la stratification du vivant n'est pas homomorphe. Donc ce qui se passe au niveau des cellules, c'est pas forcément ce qui se passe au niveau des individus. Mais les règles générales qu'on peut tirer, c'est qu'il y a différentes manières de mourir. On a parlé d'apoptose. Donc, si on est une cellule, on peut mourir par apoptose, on peut aussi mourir par nécrose et par une quinzaine de modalités de mort cellulaire différentes. Et quand on est un individu, on peut vieillir à des taux qui sont différents, à des rythmes différents. Donc un éphémère, un moustique vit 24 heures, un requin du Groenland 400 ans, etc. Donc on voit bien qu'il y a différentes manières de mourir parce qu'il y a différentes manières de vivre. Et donc on ne peut pas tirer de règles générales par rapport à ça. Il y a une pluralité.
Justement, oui, on peut parler de mort plurielle, Abdel Awacharia. Sur l'exemple de la question du vieillissement, il y a cette interrogation quand même qui est assez délicate, hein, qui est celle de savoir est-ce qu'on est programmé au fond pour mourir.
Là encore, c'est toute une question de pluralité des schèmes explicatifs. Selon qu'on propose des causes proximales en fait, à la mort des organismes, donc cause proximale, c'est quels sont les mécanismes qui nous amènent en fait, à vieillir et puis à mourir au terme de cette trajectoire-là. Donc c'est pour le dire de manière très caricaturale, on pourrait se comparer à des machines à laver, on est usé, et puis finalement les pièces ne fonctionnent plus. Mais on a à côté de ça des causes en fait, évolutives et les généticiens et les évolutionnistes ont pensé un ensemble de raisons à la mort qui ne sont pas des justifications. Donc ça, c'est un point qu'on pourra développer. Donc des raisons évolutives, et parmi ces raisons, on a des schèmes explicatifs qui sont très différents selon qu'on est un unicellulaire, un pluricellulaire. Donc c'est important ramener ça en fait à la question du schéma et de qui on a, quel siège on occupe dans le buisson du vivant.
Donc ça nous emmène très loin, hein, cette affaire de mort cellulaire, comme vous l'évoquez dans cet ouvrage passionnant qui s'appelle « La mort architecte du vivant ». C'est un livre que vous publiez aux éditions Belin, Abdelawah Cheria, préfacé par Edgar Morin. Et je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler et de nous avoir fait cheminer avec vous sur les chemins de la mort.
Merci beaucoup Mathieu.
Merci infiniment également à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier, Corentin Rouchy qui était à la technique, Lucie Sarfati pour la coordination et Jérôme Boulet qui réalisait Notre Terre au Carré.